En dehors de ma surface est le premier podcast où l'on discute expatriation et voyage avec des entraîneurs et des joueurs de foot. Nos invités sont partis exercer leur métier à l'autre bout du monde, parfois dans des pays hors du commun. Ils sont vraiment sortis de leur zone de confort. Aujourd'hui, ils nous racontent en quoi ces aventures ont été des tournants dans leur vie comme dans leur carrière. Partons ensemble à la découverte de nouvelles cultures, de rencontres, d'expériences de vie autour de ce langage universel qu'est le football. Je suis Hugo Sanudo, spécialisé dans le football à l'international, et je suis ravi de vous accueillir dans ce podcast. Dans cet épisode, je reçois Christophe Gamel. Christophe est un entraîneur et un voyageur dans l'âme, qui a trouvé sa vocation très jeune. Dès le début, il savait que son chemin n'allait pas être tout tracé, et qu'il allait devoir mouiller le maillot, comme on dit. Vous allez voir que pour s'aguerrir et se former, il a décidé dès le début de partir à l'étranger, en Hongrie. Et depuis, sa valise est toujours prête. Lors de notre discussion, on s'est naturellement attardé sur son aventure aux Fidji, où il a été le sélectionneur national durant 2 ans et demi. Sélectionneur des Fidji, ça ne fait pas rêver ça ? Les Fidji, ce pays d'Océanie de 900 000 habitants, situé à 16 000 km de la France, autant dire à l'autre bout du monde. Christophe nous raconte sa vie là-bas et comment il a dû batailler pour développer le foot sur une île qui ne vit que pour le rugby. Bonne écoute. Bonjour Christophe, comment vas-tu ?
Salut, ça va, merci. Et toi Hugo ?
Ouais, ça va super bien, merci. Je suis super content de t'avoir. Est-ce que, pour commencer, tu peux te décrire, tout simplement, un peu ton parcours, d'où tu viens, ce que tu as fait ?
Alors, bah, écoute, je suis originaire de Seine-et-Marne, de Meaux. Et ensuite, j'ai pas mal bougé. J'ai joué dans un petit club au départ. Il s'appelle à La Ferté-sous-Jouarre, exactement. Petit club du 77 que je salue. Et ensuite, j'ai été recruté à Meaux, où là, j'ai joué en semi-pro. Hein, et après, je suis parti un petit peu dans le sud de la France, à droite, à gauche. J'entraînais toujours à côté les jeunes. Hein, on commence avec les tout-petits. Et puis, bon, c'est quelque chose que j'aimais faire depuis longtemps. Et puis ça s'est enchaîné à peu près bien. J'ai fini de jouer en Italie. Et derrière, j'ai eu tout de suite une première expérience avec un manager, un homme qui s'appelle Georges Guedes d'Oamaral, en France, à Bagneux, exactement. Et on a passé des super moments, vraiment. Une personne incroyable. Et puis, j'ai eu la chance après de partir sur la Hongrie, le Qatar, derrière le PSG. Ensuite, les Fidji, la Belgique et dernièrement, il y a eu aussi l'Algérie.
Ok, ouais, on va revenir sur toutes ces expériences à l'étranger. Je voulais te demander, quand on te dit que tu es un entraîneur, un baroudeur ou un globetrotter, tu aimes bien d'avoir cette étiquette-là ou au contraire, tu trouves ça un peu péjoratif ?
Bah, alors péjoratif, oui et non. Péjoratif, ça dépend de quel point de vue, déjà. J'ai compris qu'en France... Il y avait des fois des réticences à prendre des joueurs qui n'ont pas été professionnels, qui n'ont pas de nom, des entraîneurs qui sont un petit peu inconnus. Sauf actuellement, je crois que un des seuls cas, c'est De Sabre, qui est à Niort et qui fait du bon travail.
Qui a fait ses armes à l'étranger.
Qui a fait ses armes à l'étranger, donc qui était considéré un peu comme baroudeur aussi. Mais donc si on se met du point de vue d'un club français, peut-être que ouais, derrière cette image, il y a peut-être un peu de quelque chose de péjoratif. Mais je suis complètement épanoui. J'assume totalement mes choix. Parce que quand on ne nous donne pas notre chance quelque part, bah, il faut aller ailleurs et puis se challenger aussi. Et non, au contraire, je trouve que c'est une grosse source de richesse. De savoir appréhender vraiment différentes cultures, de savoir appréhender différents types de football. Il y a la dimension humaine qui est très importante et qui est très enrichissante parce qu'on est obligé de développer vraiment des choses incroyables pour réussir à se faire comprendre ou pour réussir à manager une bonne séance, etc. J'ai pas de problème à partir à l'autre bout de la terre pour le football, parce que c'est vraiment une passion, c'est mon travail aussi. Et j'espère qu'un jour, de toute façon, on me donnera aussi ma chance en France.
Donc c'est, on va dire, un objectif ?
Ouais, c'est aussi un objectif, bien sûr. Nul n'est prophète en son pays. Ben, il faut faire changer le dicton.
Et on va un peu en arrière. Il vient d'où ton goût du voyage ?
Depuis petit, je me souviens d'une anecdote que m'a dit ma mère. À l'époque, je crois que j'avais 7 ou 8 ans, j'avais pris mon sac et elle m'avait vu passer la porte et je lui disais bah, je vais partir, je vais voyager dans le monde. Donc on en parlait la dernière fois et elle me disait bon, j'ai pas été surpris de tes choix. Ce qui est fort, c'est de pouvoir réaliser ce qu'on veut faire. Voilà, et le football est un moyen de vivre ça. Voilà, parce que venant d'un milieu pauvre, il faut trouver les moyens d'accrocher des choses à ses rêves. Voilà. J'ai eu cette passion du foot. Du coup...
Tu savais que tu allais mixer foot et voyage dès le début?
Oui. En vrai, ça, c'est quelque chose que... Je pense que c'est une nature, à la base.
Et tu me disais, tu as aussi des origines italiennes.
Ouais, il y a les origines, il y a les gens avec qui vous avez vécu, que vous avez croisé dans votre vie, avec qui vous êtes resté. J'ai eu la chance de côtoyer vraiment différentes religions, différentes cultures. Et tout ça, on en prend un peu avec soi. On part jamais indemne de nos aventures. Au gré des rencontres, ouais, plus les origines. Et moi, j'ai un fils aussi qui est mixé, qui a d'autres origines. Et il y a une vraie richesse derrière tout ça.
Si on revient au début de ta carrière d'entraîneur et du voyage, tu me disais, ta première grande expérience, c'est en Hongrie.
Oui.
Pourquoi la Hongrie? Comment c'est arrivé dans ta vie?
Alors, la Hongrie, c'est un ami, Jean-Marc, qui à l'époque travaillait pour un agent. Et il m'appelle et il me dit, voilà, il y a un club où il y a des Africains qui sont francophones et ils cherchent un coach pour aider là-bas parce que il y a la barrière de la langue, etc. Donc aux entraînements, puis c'est un choc culturel. Moi, à l'époque, je sors juste d'une expérience très intéressante et bon, je dis ok, pas de problème. Je pars tout de suite dans la foulée.
T'as pas trop hésité?
Non.
Et tu savais quoi de la Hongrie?
Rien.
Rien du tout.
Rien. Mais vraiment rien. Donc, je pars, j'arrive à Budapest. Et c'était à 200 km de Budapest.
Ça, tu savais?
Non.
Ah ouais.
C'était Miskolc, la ville. Et le club, c'était le DVTK. Bon, déjà, Budapest, c'est un peu un choc, mais c'est top. Ouais. Mais là, c'est plutôt la campagne... Même un blanc d'origine étrangère, on le voit, pays de l'Est, machin, etc. Bon, attention. Alors, avec les Africains, un gros contraste, quoi. Le matin à l'entraînement, vous arrivez, il y a des mecs qui sont quasiment garde à vous. Et puis, tu en as d'autres qui sont avec la joie de vivre, en train de... Voilà, deux cultures opposées. Et il faut réussir à les faire marcher ensemble. J'ai eu la chance d'être avec un coach qui s'appelle Janos Pajkos. Je parlais pas très bien anglais, on va le dire. J'ai dû bosser avec très peu de matériel, donc faut vraiment inventer, trouver, aller puiser dans ses connaissances et tout. Donc c'est ça qui est super riche. Et puis c'était un bon football, hein, un bon football. Et derrière, on a réussi parce que le club était mal placé. J'ai rencontré le manager général qui s'appelle István Csaloly, qui était lui un ancien de l'équipe nationale, un bon joueur, grand caractère, et il a apprécié le travail. Bon, c'est une autre mentalité, c'est assez militaire, je dirais, mais je m'y retrouve bien des fois là-dessus, parce que dans le haut niveau, il faut quand même un aspect pointilleux du détail, etc.
Et est-ce qu'il y a des choses, tu penses, que tu as appris à ce moment-là, que tu continues à utiliser?
Alors, dans le management, Janos, ce coach-là, il était incroyable. Je te donne une anecdote, par exemple. Il avait son bureau et il avait transformé le bureau de manière à ce qu'il l'avait mis à une place où il pouvait voir les joueurs aller au vestiaire.
Ok, c'était important pour lui.
C'était important. Il les voyait et dès le matin, il arrivait à capter qui était dedans, qui n'était pas dedans. Et il pouvait les appeler. Il me disait de m'asseoir à côté de lui. Je ne parlais pas un mot, hein, je ne comprenais rien de ce qui se disait parce que le hongrois est très, 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 très dur. Hein. Je connais Igen qui veut dire oui, Nem, non. Voilà. Et il appelait le mec. Et des fois, je ne sais pas, parce que tu sais, la manière dont tu parles, tu te dis, putain, il est en train de l'engueuler ou quoi.
Ouais.
Mais non. Il était beaucoup sur l'humain. Et ça, tu vois, c'est des choses qui, plus tu vas dans le haut niveau, c'est important, je pense. Et, bah, d'ailleurs, même, à tout niveau.
Donc ça, tu y penses encore?
Comme je te disais avant, tu ne peux pas quitter un endroit sans te souvenir de certaines personnes ou sans... Des fois, tu partages des moments de vie. Hein. Ça peut être 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Donc, tu gardes toujours quelque chose. Et puis, ce que tu veux prendre, tu le prends. Hein.
C'est fou. On en parlera aussi dans toutes tes expériences. C'est ce qui ressort. Mais ce métier d'entraîneur te permet de rentrer dans une culture.
Ah ouais, bah là, il faut que tu absorbes la culture, pas perdre ton identité et comprendre les choses qui t'entourent. Et ça, c'est très dur.
Et surtout, cette première expérience super difficile.
Ah là, tu es à l'hôtel tout seul, des fois, tu te dis, ça va être compliqué. Et là tu n'as pas le choix, tu es baigné dedans. Donc, je me souviens me balader avec l'anglais de A à Z, apprendre des mots et puis échanger au fur et à mesure. Et puis, ça vient. Comme je te dis, si tu as la volonté, tu fais. Puis après, là, avec l'UNECATEF, etc., ils ont des petits livrets, ils peuvent t'aider. Donc, c'est toujours, y a toujours moyen de faire.
Tu n'as jamais été bloqué pour expliquer un exercice à cause de la langue?
Non, parce que si tu n'y arrives pas par la langue, tu as des dessins. Si tu n'as pas de dessin, tu as d'autres choses. Sinon, tu es sur le terrain, tu montres, tu bouges et tu expliques. Il y a toujours il y a le langage corporel, il y a beaucoup de choses. Mais c'est vrai que la communication, c'est quand même super important.
Et donc Hongrie, super formateur.
Ouais.
T'es resté combien de temps?
Deux ans.
Deux saisons. Et donc là, au bout de 2 ans, qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Tu vas où? Là, on est en quelle année?
Ouais, de 2007, 2009. Et après, c'est le Qatar.
Après, c'est le Qatar. Qui vient te chercher? Comment ça se passe?
Alors écoute, en fin de saison de Hongrie, je reçois un appel et je pensais que c'était un ami qui me faisait une blague. Parce qu'il m'appelle pour l'équipe nationale des U17 ou U18 du Qatar. Et en fait, non, c'était le directeur technique national à l'époque. Et il a besoin de personnes qui, dans la prépa physique, dans l'entraînement, dans les deux, des coachs, parce que c'est le moment où le Qatar décide d'investir vraiment sur ces jeunes.
Comment il te contacte? Comment il a ton numéro?
Je pense que c'est peut-être via l'UNECATEF ou via la FFF, parce que c'est quelqu'un qui avait passé son diplôme en France et il y avait une vraie vision derrière. Et je suis amené à travailler avec Alain Larvaron, un ancien joueur professionnel, super mec. Et on passe une année avec l'équipe nationale dans des conditions incroyables. Tu es à Aspire, l'académie, tu es à côté, il y a Bruno Mitsu. Je veux dire, tu rencontres des gens incroyables. Il y a Gilles Morisseau pour les gardiens. Enfin, tu croises des profils de dingue. Tu n'aurais pas la chance de croiser en France, quoi. C'est ouais. Aussi la beauté de ça.
Tout ce petit monde, en fait, qui commence à recruter un peu des personnalités.
Ouais, là, il y a vraiment des cadors. Hein.
Donc, super, super formateur, super enrichissant pour toi. Donc, tu es resté une année dans
l'équipe nationale.
Nationale
derrière, je reçois un coup de fil, propose de venir au club d'Al Rayyan.
Okay. Voilà. Et là, en tant que quoi?
Alors, sur la prépa et après du coaching. Donc, vraiment...
Dans le staff, quoi.
Voilà, dans le staff. On gagne beaucoup de choses parce que c'est un club, c'est un des 4 gros clubs, on va dire, du Qatar. Je rencontre Paulo Autori, qui est vraiment au Brésil, qui est une icône hein, chez les entraîneurs. Très, 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 très dur, très, très pointu. Mais bon, qui me donne une assez bonne idée de ce que pourra être le haut niveau si je veux y accéder un jour.
Et la vie là-bas, t'as aimé?
Ouais, franchement. Après, t'es pas mal dédié pour le travail. Hein. Donc, je rencontre aussi une belle personne qui est malheureusement décédée. Je pense à lui, je pense à son fils, qui s'appelle Georges Van Stralen, un ancien de la grande époque de Nantes. Et David Gigel, enfin, il y a beaucoup de monde. Et on passe des soirées aussi
à parler foot.
De tous les temps, quoi. Et ça pour moi, ça vaut vraiment 1000 entraînements.
Et ça arrive que quand tu es à l'étranger?
C'est à l'étranger, parce que quand tu as ta vie chez toi en France, tu rentres, peut-être la famille, ou tu reprépares tes entraînements, machin. C'est un état d'esprit. Alors que là, bon, passez chez moi, les gars, on va préparer comme ça, mais il y a plein de mecs qui arrivent en même temps. Tout à coup, la soirée part en vrille, et puis on finit à discuter jusqu'à 4 heures du matin. et tu passes des moments exceptionnels, mais vraiment exceptionnels. C'est sûr qu'on a la chance de faire ce qu'on aime. Quand des fois, on est bien payé et des fois, il ne faut pas croire. En Hongrie, je n'ai rien à cacher. J'y allais pour, c'était quoi, 2000 balles. Hein. Mais il faut accepter ça. Ça correspondait au niveau de vie de là-bas et c'était un bon salaire pour là-bas.
En Hongrie, ouais, bien sûr. Mais ça aurait pu repousser beaucoup de candidats. Ouais,
bien sûr. Bah, après, c'est toi, ta vision des choses et comment est-ce que tu peux l'adapter à ton budget, à des choses. C'est sûr que si tu as un crédit qui est à 2000 euros déjà, bon, tu ne vas peut-être pas regarder de la même manière. Parce qu'il faut vivre. Mais ça, c'est des choses que je comprends tout à fait. Hein. Voilà, j'ai de la chance. Je viens d'un milieu où on apprend à se satisfaire aussi de ce qu'on a. J'ai été élevé comme ça. Donc, et puis, je n'ai pas ce profil. Tout simplement. Hein. Donc, voilà, il faut rester clair dans ses baskets, essayer d'avancer comme ça. Et puis après, on monte, et puis on espère, bien sûr. Je ne te dis pas, hein, moi, j'ai aucun problème avec l'argent. Hein. J'en ai manqué pendant des années. J'ai vu mes parents vraiment souffrir pour monter le rêve de leur vie, qui était avoir une maison. J'ai même pas vu mon père grandir avec ce rêve, puisqu'il est parti bien avant, quand j'étais plus jeune. Donc, tu vois, moi, c'est quelque chose qui, quelque part... les profils, etc., faut rester un peu à sa place, tu vois. Faut pas se prendre pour les cadors, etc. Faut bosser dur. Quand tu as ton contrat et que tu dois bosser, tu sais où tu vas. Tu te poses pas la question. Hein. Là, oui, clairement, au Qatar, il y a eu des sommes astronomiques. J'étais pas concerné. Et beaucoup de gens avec qui j'étais n'étaient pas forcément concernés, mais tu vis bien. Après, attention, là-bas, tu n'as pas les impôts, mais tu peux les avoir en France. Attention.
Tu as vu dans tes expériences, si on rentre dans des trucs un peu plus concrets, tu as dû bien comprendre ce monde-là d'expatriation.
Tu l'apprends à tes dépens, des fois. Hein. Ouais, parce que j'ai cotisé pour des trucs et en fait, c'était pas la bonne caisse assurance, machin. Donc, tu as mis de l'argent, tu as perdu des sommes quand même. Hein, parce que de vouloir payer tes trucs pour la France, etc., ça coûte une blinde. Hein.
Non, j'avoue que j'imagine, quand on t'a proposé la Hongrie, tu n'as pas réfléchi à tout ça.
J'ai pas réfléchi à tout ça. Tu as pris ton sac, t'es parti. Mais même des fois, encore maintenant, j'y réfléchis pas. Parce que sinon, ça te casse ton processus de départ. Si j'ai un conseil à donner, hein, c'est au moins de partir avec tout ce qui est l'assurance rapatriement, les trucs comme ça. Quoi. Ouais. Surtout.
Tout ce qui est santé.
Voilà, la santé. Parce que tu n'as pas la même. Prestations, on va dire, sanitaires, suivant les endroits du globe où tu vas.
Et donc là, au Qatar, tu es resté combien de temps?
En tout, 3 ans.
Et après?
Après, je rentre du Qatar et il n'y a aucun lien avec Paris.
Ok. Mais tu es rentré sans rien? Ouais, tu avais fini ton contrat.
Voilà, j'avais terminé. Entre-temps, j'ai mon enfant. Donc, du coup, je pars. Et en rentrant, je reçois un coup de fil d'un pote. Il me dit, écoute, tu es de la banlieue parisienne? Je dis, oui. Il y a quelqu'un qui va reprendre un club et c'est sur Paris. Ah, je dis, bah, écoute, c'est génial. Il me dit, il a besoin d'un mec pour les séances terrain, etc. Il faut que tu ailles voir, il est sur la Côte d'Azur. Donc, je crois que je viens d'arriver depuis 1 ou 2 jours. Donc, je prends un billet de train, je descends. Je dis, ok, je vais le rencontrer directement.
Tu ne savais pas trop.
Non, je ne savais rien. Je rencontre cette personne et il me met en relation. Avec Farid Benstiti, qui est à l'époque en Russie encore. Et on parle, et bon, il fait ses sélections, et à la fin, il me sélectionne, et il me dit, voilà, c'est pour le PSG. Et c'est pour les filles. À l'époque, je ne connais pas trop.
En 2012.
Ouais. Je dis, ok. Parce qu'il m'explique le projet, et ça a l'air vraiment intéressant. Il y a un vrai projet derrière. Je dis, ok. Et voilà, on est pris pendant 4 ans dans cette machine.
C'est à ce moment-là tu passes le diplôme
ouais.
En parallèle
En parallèle. Donc, c'était en 2016, ça.
Ah, ouais. Ok, à la fin, c'était
ouais, à la fin.
Donc, tu passes ton diplôme, le BEPF, c'est l'UEFA Pro. Là, aujourd'hui, c'est le diplôme nécessaire pour être entraîneur principal dans n'importe quel club du monde.
Voilà, le tout, c'est que derrière, ça m'offre une opportunité de travail.
Et là, il y a
les Fidji.
Les Fidji. Pour devenir sélectionneur.
Sélectionneur.
Comment donc ça là, se passe? Raconte encore qui l'appelle. Qu'est-ce qui se passe?
En fait, c'est par quelqu'un avec qui j'avais passé mon UEFA A en France. septembre. Donc il me dit, on parlait d'un, il me parlait toujours de quelqu'un qui s'appelait Didier Chambaron, qui est à la FIFA, qui est quand même un gros nom, qui bouge pas mal. Donc je le contacte, je dis voilà. Et il me dit, bah, envoie ton CV des fois en Océanie, cherche. Donc j'envoie à la Confédération. Puis,
Fédé, Hatt, Fidji.
Ouais, ouais. Non, même pas au Fidji, à la Confédération d'Océanie. Voilà. Donc à l'époque, ça se faisait un peu comme ça. Et deux, trois mois après, je reçois un coup de fil. Voilà. On a sélectionné votre dossier, on aimerait bien voir. Bon, je passe 5-6 entretiens sans savoir où c'est.
Ah, incroyable.
Parce qu'ils ne veulent pas te dire, machin, pour, je ne sais pas, mais peut-être pour...
Tu pensais à quoi, là? Non, tu voulais pas...
Bah, l'Océanie, ouais. À l'époque, je croyais qu'il y avait encore l'Australie dedans.
Ah, voilà, mais OK.
Donc, tu vois, tu rêves, hein. D'accord? Tu rêves, parce qu'ils ne vont pas te filer l'Australie.
Okay.
Mais, tu vois, tu avais la Nouvelle-Zélande. Après, je ne connaissais pas trop le reste, je te dis en toute sincérité. Je n'étais jamais allé aussi loin sur une carte. Voilà. Donc, tu sais, tu as toujours dans un petit coin de ta tête, quand tu regardes la Coupe du Monde, tu as toujours une petite équipe que tu adores. Ouais. Tu adores une grande équipe et le petit pousset, tu as toujours envie.
Il y en a toujours un.
Il y a toujours un et tu le kiffes celui-là parce que tu sais que c'est dur. Même s'ils prennent des tôles, tu les aimes bien. Et je me dis, bah, pourquoi pas. Et on parle, je fais les sélections et à la fin, j'ai une dernière sélection. Et il y avait un président, il me dit, voilà, c'est les Fidji. Je cours vite sur Internet. Ouais, bah ouais. Je regarde, je dis, putain, c'est où? Je vois. Ah, je dis, merde.
C'est petit, ça.
Ah, c'est petit. C'est petit, mais sans me réduire, je suis pas un gros profil.
Mmh.
Donc, c'est adapté.
Ouais, voilà. Et c'est sélectionneur.
Et je sais que, tu vois, c'est important dans une carrière. Il faut aussi avoir une sélection, quoi. C'est-à-dire, si tu ambitionnes ce travail, il faut sentir le poids d'une sélection, peu importe. Hein.
Bien sûr.
Ça a un poids, hein, quand même. Et je dis, OK, je vais voir. J'ai 2-3 jours pour me décider. Boum, je pars. Ça m'intéresse, c'est une sélection. Ils me choisissent à la fin, qu'est-ce que tu veux que je dise?
Et là, facile, tout ce qui est démarche et tout ça, il n'y a pas de souci.
Les démarches, je les fais sur place. Ils m'ont pris un billet d'avion.
Avec un contrat, tu l'as signé avant de partir?
Ils m'ont envoyé un pré-contrat que j'ai re-signé quand j'étais là-bas. Ça, il faut faire attention parce que ça peut coûter cher des fois.
Hein. Eux, ils envoient le billet d'avion.
Ouais, ouais. Si eux t'envoient le billet d'avion, etc., bon, c'est une petite fédé, donc tu sais que ça a un coût. Voilà.
Donc là, tu prends le vol le plus long de ta vie, là.
Ah ouais. Ah ouais.
Via l'Australie. Non, via. Tu fais quoi?
Non, non. Alors, j'avais fait Qatar, je crois. Qatar, Australie et Fidji.
Et tu dis quoi là dans l'avion, en allant là-bas, tu t'attends à quoi?
À rien du tout. Tu vois, j'arrive là, alors tu dis c'est un paradis hein, quand même. Quand tu arrives et que tu survoles, là.
T'es content.
Ouais. Et après, tu comprends tout de suite que t'es pas là pour les vacances, quoi.
Ah ouais, très vite.
Ouais, très vite.
Ouais, c'est ça aussi, non? Quand t'es entraîneur, le lendemain, t'es déjà limite sur un terrain de foot.
Bah ouais. Le lendemain, j'étais sur un terrain, déjà en train de préparer tout pour faire des listes parce qu'il y avait un tournoi et j'avais 3 jours pour voir le tournoi et après sélectionner des joueurs. Donc, je m'endormais à moitié parce que j'étais en plein décalage horaire.
Il y a combien d'heures de décalage?
Ils sont en avance d'un jour quasiment. Donc, je me souviens que ça avait été pas simple.
Surtout qu'ici, t'as laissé ton fils.
J'ai laissé mon fils, tout ça. Hein, bah. Enfin, ça a des dommages collatéraux. Hein. Cette passion et cette ambition, ça a un coût hein, qu'on n'est peut-être pas tous prêts à payer ou qu'on ne veut pas payer, mais que des fois, on paye malgré soi. Et ça, ça doit être bien clair dans l'approche d'un coach s'il veut partir à l'étranger, etc. Quoi. Sauf si ça te permet d'assez bien en vivre pour emmener tout le monde. Il y a deux cas qui se profilent. Hein. Est-ce que tu peux emmener toute ta famille ou est-ce que ta femme, etc., via son travail, elle veut bouger. Est-ce qu'elle ne veut pas un peu plutôt d'assurance et qu'on se débrouille pour faire des allers-retours? Voilà, c'est des choix de vie et c'est des choix familiaux.
Ouais, c'est pour ça que, justement, le Fidji, ce n'était pas pour tout le monde.
Ah, les Fidji, ce n'était pas pour tout le monde, hein, ça c'est sûr. Mais je sentais que dans une carrière de coach...
Tu pouvais pas passer à côté.
Bah ouais,
une sélection. Tu commençais à dire non à ce type
T'imagines,
de projet.
T'imagines, si tu commences à dire non, c'est pas pour moi, c'est pas ceci.
Quel type de stress ça te procure de savoir qu'une expérience peut durer 3 mois et qu'après, encore une fois, tu reviens à zéro? C'est un stress, tu le vis pas, t'as pas peur de l'avenir, c'est un stress positif?
Ça ne me procure aucun stress.
Ok.
Pourquoi? Parce que quand à un moment tu acceptes de faire ce métier, eh ben ça fait partie intégrante du métier. Voilà. Maintenant que j'ai un enfant, etc., ce n'est pas pareil. Tu vois? Là, tu as une responsabilité. Mais bon, sa mère a une situation, elle est stable. Donc, si tu veux, quelque part, tu es beaucoup plus léger. Puis après, il y a... Est-ce que ton envie est plus forte et est-ce que tu penses que tu peux prendre le challenge? Voilà, tout simplement. Si... Il faut accepter les avantages et les inconvénients. Voilà. C'est des choix de vie. On y revient, hein, tu vois. C'est quelque chose que j'aime faire depuis le départ. Et... Voilà, le football est un moyen aussi de vivre ces expériences parce que je ne serais jamais allé aux Fidji.
Raconte un peu la vie là-bas.
Quand tu arrives, c'est des chocs culturels et religieux parce que je crois qu'il y a toutes les religions aux Fidji et toutes s'accordent. Après, tu as, c'est un style de vie qui est vraiment particulier, vraiment à la cool, quoi.
Ah, oui. Tu le sens tout de suite.
Ça, tu le sens tout de suite. Tu le sens tout de suite. Enfin, les gens vivent vraiment au jour le jour. Ils n'ont pas besoin de grand-chose. Tu as deux, entre guillemets, ethnies qui sont fidjiennes, mais qui sont différentes. Il y a des Indo-Fidjiens qui sont arrivés il y a quelques centaines d'années. Et il y a les Fidjiens, les locaux, voilà. Donc, c'est deux entités bien différentes dans la vision et qui cohabitent très bien. Et c'est sympa à voir au niveau du gouvernement parce qu'il y a vraiment un respect dans les cultures, dans les religions.
Et ça, tout de suite, tu le vois dans ton équipe?
Ah, tu le vois. Ah bah, tu le vois dans l'équipe. Hein. Tu
n'en avais aucune idée en arrivant?
Non. Alors, absolument pas. Mais bon, quand, tu sais, j'ai grandi un peu partout. Je suis passé dans tout. Donc, quand tu as ces qualités d'adaptation...
Et d'observation,
tu comprends vite. Tu vas, tu te renseignes, tu regardes, tu parles, tu demandes pourquoi ça et ça. Donc, tu vois ça, tu vis des moments incroyables, mais qui ne correspondent pas aux critères du haut niveau. Et encore moins quand tu gères une nation.
Pourquoi?
Quand tu vis à la cool, ça veut dire que quand tu appelles 40 joueurs, il t'en vient 12.
Là-bas, il y a un championnat?
Oui, il y a un championnat.
Avec des clubs qui sont
semi-pro? Il y a un championnat. À l'époque, c'était des amateurs. Et on a essayé de, on va dire entre guillemets, les rendre semi-pro. Et je pense que c'est chose faite maintenant.
Donc, les gars, ils travaillaient à côté, ils jouaient dans leur club le week-end.
Ouais.
Et en plus...
Et ils s'entraînaient, voilà.
Et il y avait la sélection de temps en temps.
Et il y avait la sélection de temps en temps. Donc, pour eux, vraiment, le club, c'est aussi une source de revenus, ce qui n'était pas le cas dans la sélection.
Ouais, c'est ça. Ça, c'est un gros problème, j'imagine.
Ah oui, ça, c'est un vrai problème. Si tu es poissonnier ou pêcheur ou tu tiens un petit magasin ou même dans une usine... Comment tu fais? Tu perds son salaire. C'est pour ça qu'il venait pas. Et que moi, au départ, je ne comprenais pas parce que nous, on est patriotes quand même. Tu vois, tu dis, attends, les mecs, ils crachent sur leur... Alors après, tu peux obliger à faire venir un, hein, parce que c'est comme si tu refusais de venir défendre ton pays, en fait. Il y a des règles, hein, très strictes là-dessus. Si tu vas à l'extrême, ils peuvent aller en prison. Mais ce n'est pas le but. Je veux dire, Donc, il a fallu vraiment aller dans ce processus. Essayer de comprendre et comment changer les choses. Donc, c'est aussi des discussions avec ton président de Fédé, qui est vraiment un homme avec qui je me suis pris la tête, mais qui est exceptionnel pour son pays. Parce qu'avant, il y avait eu pas mal de corruption, donc c'était une nouvelle vague, hein, qui voulait vraiment pas ça, qu'ils essayent que tout soit clair. Voilà, je lui dis, il faut quand même instaurer un truc minimum, président, que les gens, au moins, ils perdent pas d'argent. Si tu viens et que tu sais que tu... C'est normal qu'ils viennent pas. Bon, malgré tout, il y en a qui ne viennent pas parce qu'ils s'en foutent. Le mec, je me souviens très bien d'un joueur, je vais le chercher dans un village, tu vois, je me perds, la misère. Et le mec me dit, écoute, franchement, j'aimerais bien, j'ai parlé avec les potes, ils m'ont dit, on s'éclate à l'entraînement. Mais il me dit, je me lève le matin, si j'ai faim, je vais prendre des fruits là-bas dans la forêt. J'ai ça, j'ai ma famille là, j'ai le truc. J'ai pas envie.
Mais c'était des passionnés de foot ?
Non, c'est le rugby là-bas. Ouais. Tu rigoles ou quoi ? On était, je ne sais plus combien on était au classement, on devait être 187 ou 189e mondial sur peut-être 200 et quelques, 212.
Alors qu'en rugby, ils sont dans les 15 premiers.
Ouais, ils sont dans les 15 premiers. Et puis au rugby à 7, qui est vraiment la religion là-bas, ils sont premiers. Hein. Ils sont champions olympiques.
C'est fou que... En rugby, il continue à être aussi bien classé pour une petite île.
Non, c'est pas fou. C'est pas fou. Et déjà, ils prennent des coachs de très haut niveau. Et c'est ce que j'avais vu. Je trouvais qu'il y avait un potentiel.
Athlétique.
C'est des gens qui... Ouais, athlétiques. Je suis allé voir hein, l'entraînement du rugby à 7 pour voir les charges qu'ils prenaient. Écoute, j'avais jamais vu ça encore. C'est incroyable. Au rugby, c'est des forces de la nature. Incroyable. J'ai vu des mecs monter un cocotier et redescendre la tête en bas, à la force du corps. Hein. Des trucs à 20 mètres de haut, hein. Je sais pas si t'imagines. Et c'est des mecs qui font, il y en a qui font 1m90, qui font pas loin de 100 kilos ou 90 kilos.
Et dans ton équipe, t'en avais quelques-uns au foot ?
J'avais quelques-uns. Après, toi, tu récupères ceux qui n'ont pas pu réussir au rugby.
Les gringalets de 1m90.
Les gringalets des Fidji, ça équivaut à quand même des beaux bébés en Europe. Hein. Tu vois. Et, mais une fois qu'on a trouvé un peu notre rythme et qu'ils ont appris à me connaître, j'ai appris à les comprendre, vraiment, on a créé un groupe qui était hyper intéressant. On a commencé à avoir des résultats, peut-être 9 ou 10 mois. Hein. Après, parce que t'as vraiment un décalage énorme. Hein. Surtout que, vraiment, la priorité, c'est le rugby. Et quand je te dis rugby, c'est rugby à 7. Ils ont un rugby à 9, ils ont un rugby à 11, ils ont un rugby à 15. Donc, t'as pas de joueurs. Et donc, après, t'as les clubs. Mais dans les clubs, ce qu'ils appellent les clubs, c'est des districts. Voilà, t'as ceux qui viennent pas, t'as ceux qui... Donc, c'est un casse-tête au départ. Le temps que tu comprennes, ça prend 2-3 mois. Tout ça, c'est la vraie beauté du métier. Et là, j'ai vécu des choses très, très fortes avec ces joueurs. Vraiment. Où il y a eu un moment où on a réussi à faire des choses et ça a défini notre groupe et on a pu... Ça faisait 14 ans qu'ils n'avaient rien ramené des Jeux du Pacifique. Et les Jeux du Pacifique, c'est tous les gens du Pacifique qui se rencontrent. C'est un peu comme les JO.
C'était où ?
Et au Vanuatu.
Dis des équipes contre qui tu jouais. C'était pour nous faire voyager, pour nous faire
rêver. La Nouvelle-Zélande, la Nouvelle-Calédonie, Tahiti. Ah ouais, là, tu voyages. Hein. Vanuatu, les îles Solomon, Tonga, Samoa.
C'est quoi les distances en nombre d'heures de vol ?
Ça dépend. Ça varie d'entre 3 et 7 heures, peut-être, tu vois. Donc, oh ouais, c'est magnifique. Franchement, de vivre ça, c'est exceptionnel. Et de le voir surtout évoluer. Tu vois ? Parce que tu es venu pour ça.
Tu es resté 3 ans ?
2 ans et demi.
Tu rentrais en France de temps en temps pendant
ouais, je rentrais, mais j'essayais de faire venir surtout.
Ouais. Bah, ouais, ils ont profité, tu avais profité d'un travail, des amis.
Bien sûr.
C'est une chance, cette opportunité.
Ah, bah, après, et je disais à tout le monde, hein, venez, venez. Même pour moi, parce que, je veux dire, c'est le moment où tu vas prendre un peu de temps pour les autres et pour en profiter, sinon tu es la tête dans le boulot. Et puis, il faut lutter contre, tu sais, la corruption, la drogue, les journaux qui sont tenus par des clubs et qui veulent te démonter parce que tu leur fais la misère, parce que justement tu veux faire appliquer les règles. Bon, voilà quoi, hein, c'est pas simple. Hein.
C'est vrai qu'on s'imagine pas quand on se dit ouais. Ah, il était sélectionneur là-bas, on se dit ah, c'était tranquille, il y avait aucun problème. Non, mais t'as les mêmes problématiques limite des.
Et t'en as d'autres.
Toi. Ouais, t'en as d'autres.
Ah ouais, t'en as d'autres, vraiment. T'en as d'autres.
Enrichissant, super enrichissant.
Super enrichissant. Je garde encore des super. J'y serais encore si j'avais pas eu d'autres choix à faire.
Mais raconte des anecdotes.
Par rapport à quoi ? Au terrain ?
Ouais, en dehors aussi.
Ça m'est arrivé de voir des joueurs qui arrivaient en tongs, donc obligés d'aller chercher des pompes.
Ah, qui n'avaient pas de chaussures.
Ouais, au départ. Hein, au départ. Après, j'ai fait mettre des normes, des standards. On a eu un sponsor, Kappa, qui est venu. Après, on a commencé à ressembler à une vraie équipe nationale. Après, c'était quand même structuré, tu vois. C'était quand même structuré, mais il fallait vraiment quelqu'un pour impulser le truc. Et à mon avis, c'était bien que ça soit un étranger. Moi, là-dessus, je suis une tête de con, hein, je te le dis sincèrement. La nation, c'est la nation. Donc, je les ai amenés à faire respecter
ça. Toi, tu te battais pour la nation. Ouais.
Exactement. Peu importe où tu es, peut-être j'ai un côté patriotique, tu vois, qui est assez poussé. Mais ouais, tu ne marches pas sur ta nation. Oh, tu peux avoir... En dessous, les districts, qui sont les clubs, il y a des sous-districts, qui sont des petits clubs. Alors, si toi, tu as une petite entreprise, ton kiff, c'est de payer un joueur qui est du district. Et puis, tu le payes. Et comme ça, il ne va pas en équipe nationale. Il ne va même pas au district. Mais tu l'as eu avec toi sur un petit tournoi.
Tu gagnes un tournoi local.
Mais pour eux, quand je te dis, mais à un niveau national. Sans compter que tu as des matchs religieux. Alors, tu as le Sangam Tournament, tu vois, c'est toi qui es en Inde, etc. Sanatan. Après, tu as le tournoi musulman de ça. Et après, tu as le tournoi.
Ça, tu allais voir un peu tout ça?
Ah ouais, il fallait bien que je trouve des joueurs, moi. Donc, et tu trouves des perles. J'ai entraîné à côté, j'avais dépanné un club, l'Otoka. On fait une finale de Champions League d'Océanie à la fin. C'est-à-dire qu'à l'époque, c'était Real qui avait gagné. On serait parti, si on gagne contre l'équipe de Nouvelle-Zélande, on serait allé faire les sélections là-bas. Moi, j'étais comme un dingue. Et il y avait, je crois, qui c'est qui était venu? France Football ou un truc qui avait fait. Parce qu'ils ont vu qu'un Français, il allait en finale de Champions League d'Océanie. Et ça, c'était des super moments.
Et donc, en finale, après, tu perds contre l'équipe de Nouvelle-Zélande.
On va jouer à Auckland. Tu avais 20 degrés d'écart. Et je me souviens, je parle au président de l'Otoka et je lui dis, voilà, il faudrait qu'on achète des secondes peaux, tout ça. Il me dit, on va jamais trouver au Fidji. On a allé jouer, tu tombes sur un terrain, sur Wellington, ou un truc. Oh, un froid de canard, mais vraiment, vraiment gelé les mecs. Et tu vois des mecs hyper puissants, sans crampons ou des petits trucs, tu vois. Et t'es dégoûté parce que tu sais déjà que tu vas te faire ratatiner. Et que tu as fait tout un parcours qui est vraiment à saluer, avec des joueurs qui le méritent. Il y avait vraiment... Et malheureusement, c'est eux qui partent.
En sélection, des fois, tu faisais des stages, je sais pas, des stages commando, ou tu faisais quoi avec ces joueurs-là?
Non, non, t'es fou. Alors, stage commando, je déconseille, parce que quand on en a fait un, les mecs, ça peut... Ils prennent ça vraiment pour le... Voilà, le commando, c'est le commando, quoi. Ils vont s'attraper. Je me souviens une fois, j'ai fait un truc de nuit. Alors, on a, à l'académie, un jeu qui est un peu policier contre les trucs.
Ils l'ont pris trop sérieux.
Ah, ils l'ont pris vraiment sérieux. Mais ça reste un super souvenir. Ça devait durer, tu vois, je crois de 9h à 11h, parce que la nuit tombe très vite. À 3h du matin, on y était encore, hein. Ah ouais, parce que les mecs s'étaient cachés dans... tu pouvais pas les trouver. Enfin bon, c'était incroyable, mais... Puis c'est ils connaissent la nature, hein. Et donc, on était à l'académie de l'équipe nationale. Et ça reste un moment. Et à la fin, on a fini, on a fait un feu de camp. Tu vois, ils vont découper les noix de coco. On a passé un super moment. Et ça a commencé à créer des choses, tu vois. J'avais un bon staff aussi.
Ouais, mais t'étais le seul Français?
Non, après, j'ai fait venir Xavier Heneuse. Ça a fait du bien, tu vois, son arrivée, parce qu'on pouvait déjà parler un peu français, échanger sur des trucs. Et donc, voilà, pour les anecdotes, je pourrais t'en donner des
centaines. Est-ce que tu peux la raconter avec un gardien, un problème de gardien que tu as eu?
Oh, purée. Avant les Philippines, et je fais un stage, un bon stage de 10 jours, tu vois. J'ai mon gardien qui n'est pas là. Bloqué à l'aéroport parce que, si tu veux, là-bas, je crois que sa femme ou quoi, il était divorcé. Et comme il n'avait pas payé la pension, il te bloque à la sortie du pays. Et j'avais 3 joueurs comme ça. J'arrive à résoudre le problème pour 2, mais pas pour le gardien. Le cas était trop gros. Parce que c'était passé, il n'avait pas voulu reconnaître, je ne sais pas, tu vois. Mais s'il me l'avait dit avant, on aurait essayé. Moi, j'aurais payé, tu vois, pour qu'il puisse... on se retrouve bloqué, machin.
Mais tu avais un deuxième gardien?
J'avais un deuxième. Il y a un truc, il se blesse ou quoi. Et j'ai un grand joueur qui aimait bien, qui allait de temps en temps dans les buts. Moi, je dis, bon, on va faire avec. On prend 3-0 au bout de, je ne sais plus, 20 minutes. Hein. 3 frappes, 3 buts. Ça, c'est un truc incroyable, tu vois. Je ne l'avais jamais expérimenté. Mais voilà, là, ça tombe comme ça. On a joué avec lui contre l'Estonie, hein, en amical, ouais, international, parce que j'avais fait un plan sur 4-5 ans. Si tu voulais progresser, ouais, tu vois, tu ne pouvais pas jouer contre seulement les équipes d'Océanie. Il y en a des très bonnes. Tu as les îles Solomon qui sont, qui ont des joueurs qui peuvent jouer en Europe. Hein. C'est dommage qu'on n'aille pas voir, parce qu'en plus, ils font partie des accords de Cotonou. Ils appellent les Brésiliens de l'Océanie. Mais... Le plan, c'était de l'Océanie, bouger sur l'Asie, après bouger plutôt sur le Moyen-Orient et de finir sur des équipes d'Europe de l'Est, etc.
Mais là, il y a un problème qui,
économique,
qui
bien sûr.
C'est les fédérations qui doivent payer ces voyages.
C'est les fédés, mais...
Il y a des aides de la FIFA.
Voilà, tu as tout dit. La FIFA t'aide, l'OFC t'aide. Il y a vraiment des gens qui sont prêts à travailler là-bas pour développer le football en Océanie. Et ça prendra, vraiment. Ils prennent des gens, il y a un échange. Donc, quand il y a une réelle volonté après politique derrière, il y a un moment où ça passe. Le Qatar, j'ai eu la chance de le vivre. Mais tu voyais le développement qu'ils faisaient. Et 10 ans après, ils gagnent la Coupe d'Asie des Nations. Donc, ce n'est pas un hasard.
Ils ont plus de moyens.
Ils ont travaillé. Voilà. Par contre, voilà. Quand, c'est sûr que quand tu arrives à Aspire, bon, bah, tu es séché, quoi. Bon, bah, tu arrives au Fidji, tu aides à tondre la pelouse. Après, tu donnes. Moi, je donnais un peu de mon salaire parce que le salaire était correct par rapport à la France. Pas énorme, mais correct. Mais par rapport à un Fidjien, c'est une autre planète. À chaque fois que j'avais un camp, tous ceux que je pouvais aider, je les aidais. Parce que quand tu vois les mecs, ils y mettaient l'énergie.
Mais là-bas, les gens, on va dire, je vais le dire de manière très crue, mais ils ne meurent pas de faim. Comment tu présentes les choses?
Alors, tu as des villes qui sont pas mal structurées, d'accord? C'est très, très correct. Au niveau sanitaire, c'est moyen, mais ça reste correct. Mais tu as quand même des bidonvilles où tu as les maisons, c'est de la tôle, machin. Hein.
Mais ils se débrouillent.
Ils se débrouillent. Par contre, tu ne peux pas avoir faim là-bas parce que tout est fourni par la nature. Ou la mer... Ou les terres, c'est fruits, poissons, de la viande, du poulet. Je ne savais pas que tu vois, tu avais différents nombres, numéros de poulets. Si tu veux faire un tel plat, bah, il te faut le chicken numéro 16. Si tu fais un chicken curry, c'est pas le même, c'est le 12.
Okay.
Attention, grand, je connais maintenant. Ah ouais, c'est incroyable, c'est incroyable. Ils ne meurent pas de faim et il y a une vraie solidarité. Ils ne te laissent pas tomber, tu vois. Tu sois malade, pas malade, machin. Et ça, c'est vraiment agréable. Ouais, c'est...
Et toi, ils t'invitaient, les familles?
Ouais. Tu peux pas répondre à tout le monde, hein. Je vais te dire sincèrement.
Tout le monde t'invitait.
Tu peux. Je suis allé. Tiens, tu veux une anecdote? Je suis allé chercher un joueur. Donc, c'est dans un village qui est très éloigné, qui est sur la route. Parce que tu as une route centrale qui fait tout le tour de l'île et après quand tu commences à sortir c'est du route, c'est un chemin, après c'est de la terre et puis après tu rentres dans tu gardes ta bagnole, tu vas dans une forêt, machin, je vais chercher. Et tu peux pas aller voir comme ça parce que tu dois offrir quelque chose au chef du village parce qu'il va accepter de te le relâcher. Des fois, hein. C'est pas courant mais là c'était vraiment. Sinon normalement je les appelais. Voilà. Mais là, c'était dans un village. Tu vois. Et dans un village, par exemple, il faut savoir que les joueurs de rugby, tu vois, ils participent quand ils partent à l'étranger. Ils participent à la vie du village. Tu vois. Il y en a qui peuvent finir ruinés. Hein.
Parce qu'ils ont financé,
voilà.
Ils ont tout donné au village.
Tout donné au village, machin. Donc, tu vois, c'est culturel là-bas. Donc, j'y vais. Il y a ce qu'on appelle du cava. Donc, c'est une racine que tu vas... C'est comme une drogue un peu. C'est une racine que tu vas prendre et puis ça va t'anesthésier. Du cava. Donc tu la broies, tu la mixes, ça fait de la poudre et tu la mets dans l'eau, dans un bol de noix de coco et tu en bois comme ça, tu le partages et c'est une vraie tradition. Attention, ça, tu refuses ça.
Ah ouais.
Là, attention,
c'est
ça
le
peut.
Saké japonais.
Ah ouais, voilà, ça peut être compliqué. Et donc on y va et tu clapes 3 fois dans la main, tu dis Boula. Boula, ça veut tout dire, rien dire. Ça veut dire bonjour, merci. Voilà. Nous, on avait la Boula shirt, tu vois. Et les joueurs, ça s'appelle les Boula Boys.
Okay.
Tu vois. Donc, c'est vraiment culturel et ancré. Donc, tu vas, je vais chercher le joueur, je demande au chef de ville. Je suis reparti 2 jours après. Hein. Et j'ai bu du cava. Et tu as les lèvres, tu sens plus ton palais, tu dors. t'es anesthésié, et bon, grand, ça peut être un grand moment de solitude parce que c'est comme si tu buvais de la terre un peu.
Ouais,
ok. Tu vois ? Mais tu te tapes des barres et des...
Et quoi, c'est quoi, des hallucinations un peu ? Non,
non, non, non, non, non, non, non, non, pas si fort. Non, okay, non, non, okay, c'est okay. Juste que t'es, t'as le palais vraiment qui passe, tu zozotes parce que tu sens plus ta langue, tu baves un peu et ça te met dans un état de... je sais pas, t'es tout mou, quoi.
Ok.
Toi, t'es KO.
Le sélectionneur.
T'as l'impression que t'es fatigué comme jamais, tu vois. T'es détendu.
Mais t'es bien.
Mais t'es bien. Ouais. Puis tout le monde donne des anecdotes, ça parle. Même si tu comprends pas, tu rigoles, tu vois, des fois. Et ça reste vraiment un souvenir particulier qui est super parce que je l'ai eu qu'une fois, tu vois.
Ok.
Mais ça reste quelque chose
à faire. Et t'as dormi là-bas, dans le village, chez quelqu'un ?
Ouais, ouais, ouais. Bah, tu dors, t'as une paillasse. Hein. Et ça, t'amènes du poisson frais, des trucs.
Et le chef du village, par exemple, il savait qui t'étais ? Il comprenait l'histoire du foot ou pas ?
Je venais avec les habits officiels de la fédération, etc. Des fois, tu viens avec quelqu'un, mais là, c'était pas le cas. Voilà, et puis ils aimaient bien, tu vois, ce que je me suis déplacé.
Respect.
Voilà, tu vois, voilà, mais j'avais été aiguillé, heureusement, tu vois, parce que j'avais demandé, on m'a dit, voilà, là, c'est un peu des durs, là-bas, il faut...
Ouais, faut que tu ailles directement voir le chef du village.
Je dis, ok,
ouais.
Bon, il n'y a pas de problème. Après, tu vis des choses quand même assez exceptionnelles.
Non, non, toi, tu dis assez exceptionnel, mais imagine, nous, tellement loin, c'est ça qui est fou quand tu voyages, où tu te dis, c'est intéressant, c'est un peu fou ce que j'ai vécu. Non, ça fait rêver. On ne se rend pas compte, mais...
Peut-être, sur le moment, je ne suis pas sûr que ça fasse rêver.
Ouais, peut-être.
Mais, après, c'est après coup que tu te dis...
Oh, je viens de vivre un truc
purée,
de fou.
C'était incroyable. Tu rentres, tu y repenses, tu t'assois un peu, tu te dis, putain, mais c'était incroyable.
Et si on revient un peu dans le foot, voilà, quelles sont les grandes leçons que tu peux en retirer de cette expérience au Fidji ?
On peut revenir sur l'humain, tu vois, où là, il fallait vraiment pousser dans l'humain.
Essayer de comprendre la personne qui est en face de toi.
Pourquoi lui, il n'est pas venu ou comment faire pour que tout le monde vienne, tout le monde se sente investi sur le même projet. Après, apprendre à gérer la pression d'un pays, etc. Oui, ça servira. Parce que tu te blindes. Hein. Tu te blindes. T'en prends plein la gueule aussi. Hein. Donc, tu vis des super moments. On a été la première équipe d'Océanie à battre une équipe venant d'Afrique.
C'était qui ?
L'île Maurice, tu vois ? Qui a des origines aussi avec... voilà, c'est pour ça qu'ils veulent faire après un tournoi
dans le futur. Il y a un peu une histoire avec...
Il y a des histoires, tu vois, c'est important. Après, on a fait venir une équipe d'Estonie. L'équipe nationale, super moment. Ils ont connu le Cava. Et je peux te dire que je garde des vidéos. On a passé vraiment des moments.
Comment tu les as fait venir, eux, par exemple, c'était avec la FIFA aussi.
Ouais, c'était avec la FIFA, etc. On avait créé aussi les FIFA Awards et Fiji Awards. Et c'est là que j'ai eu l'occasion de rencontrer quelqu'un qui est quand même assez exceptionnel, Michael Sylvestre. Qui est une belle personne.
Parce que lui, il travaillait à la FIFA.
Alors lui,
il est ambassadeur
de la FIFA, ambassadeur de Manchester United, ancien joueur de l'équipe de France, bien sûr. On l'a invité. Et puis, voilà, il a un super état d'esprit ouvert.
Et il a aussi une histoire avec le Cava.
Oh, bah oui, il a goûté le Cava, ça, c'est sûr. C'est sûr. Lui, avec sa femme, etc. Bon, il a vu ce que c'était un taf de sélectionneur élargi, on va dire. Tu vois, où tu peux aller de réservation d'hôtel à...
De l'herbe.
Voilà, c'est ça. Et moi, c'est quelque chose qui me plaît, tu vois. Bon, il faut travailler, t'y arrives pas sinon. Surtout quand tu n'as pas une culture foot énorme et que tu dois transformer des mecs en footballeurs. Mm-hmm. Voilà.
Ouais, ça, quelque chose que tu n'avais jamais dû faire.
Bah non. D'habitude, tu as des fouteux. Là, bon, c'est des mecs, des fouteux, mais pour eux, un entraînement, c'était 11 contre 11. Hein.
Ouais. Voilà. Tu partais de ça.
Ouais, tu pars de ça. Voilà, ils m'ont fait venir parce qu'ils voulaient un football européen. Tu repartais derrière, quoi qu'il arrive. Même si au début, ça a été très difficile, on repartait derrière et puis ça a commencé à prendre jusqu'à temps qu'on gagne quelque chose. On a joué contre la Nouvelle-Zélande à la mi-temps, t'as 0-0. Alors qu'ils viennent avec tous leurs joueurs d'Europe hein, et tous leurs joueurs pro qui sont en Australie. Moi, je viens avec un pêcheur, un poissonnier, un mec de l'armée, voilà quoi.
Et t'as pas peur après que toutes les expériences après, elles te paraissent un peu fades ?
Non. Non, parce que quoi qu'il arrive, qu'est-ce que tu fais ? Tu dois te réadapter à un contexte, à d'autres personnes. Et j'ai quand même cette faculté à zapper ça, tu vois ?
Ouais, justement, après, toi, t'as signé tout de suite en Belgique ?
Et non, j'ai pas signé tout de suite après. Je rentre des Fidji, j'avais des trucs à faire, puis j'ai commencé à chercher. Et Michael Sylvestre m'appelle, il me dit, voilà, il me dit, c'est un challenge impossible. Voilà. Je dis, bah, c'est
ça
super.
Quoi, challenge impossible, ça
voilà,
me plaît.
Je dis, c'est super, c'est pour moi. Voilà. Après, gros travail, une autre culture, t'es français chez les Flamands.
Ok. C'est un club de D2 belge.
Ouais, ouais. KSV Roselaar qui a coulé depuis. C'était là, 2019-20. C'était la saison dernière. Hein. Donc, juste avant le Covid. C'était en décembre 2019. Donc, après, on passe sur l'année 2020. Et là, autre contexte. Mais voilà, tu es sélectionné. Tu fais plusieurs trucs. À la fin, tu vas présenter un projet. Bon, bah, à la fin, je suis pris. J'ai des joueurs qui sont maintenant en France, en Ligue 2, tout ça. Et voilà, ils te disent, là, on ne te parle pas, on ne te dit pas, tu ne connais pas la Ligue 2 ou la Ligue 1, machin. On dit, voilà, ce que vous avez proposé, c'est cohérent. Je leur ai montré comment j'essaierai d'améliorer au niveau défensif et trucs. Et puis voilà, la chance sourit, les joueurs sont très réceptifs, ça bosse dur.
Attends, juste aussi, t'es pris, combien de temps après t'es sur le terrain ?
Alors écoute, le mardi, on convoque à Londres. Le mercredi matin, je suis parti. Le mercredi après-midi, j'attaque ma première séance. J'ai mon premier match le samedi.
T'es sur le terrain, t'as les 20 joueurs devant toi.
Voilà, bim. Les 24 joueurs.
24 joueurs.
Voilà. Donc ça, bah c'est là, tu vois, que quelque part, toutes tes expériences précédentes de bouger à droite, à gauche, ouais. T'aident.
T'as pas eu besoin de 3 mois d'adaptation.
Bah non.
T'étais là.
Non, non. Nous, on était dernier à 10 ou 12 points derrière. Hein.
Ah ouais. Ah ouais, milieu ouais. De saison.
Ouais. Donc, on était mal. Non, plus que le milieu de saison. Donc, tu vois, il y en a un seul qui descendait.
Et vous sauvez.
Et on sauve aussi avec un coup de pouce du destin parce qu'il y a une équipe directe qui aussi est en grosse difficulté et qui va couler aussi. Tu vois. Mais on les avait passés déjà. Ils étaient derrière nous. C'était l'Okeren à l'époque. Plus le fait qu'ils déposent le bilan, c'était terminé. Quoi qu'il arrive, on était sauvés. Et donc, voilà, tu vois, tu finis ça. Malheureusement, tu dois repayer une licence pour rester en pro. Et je pense que c'est le propriétaire chinois n'a pas payé. Ça s'est fait au dernier moment. Et moi, d'une prolongation de contrat avec une augmentation de salaire et puis le staff, etc., je perds tout, quoi, du jour au lendemain. Voilà, ça, c'est le taf. Covid, terminé. Bon, bah là, c'est réglé. Hein.
Là, tu penses au CDI que tu aurais pu avoir tranquille.
Bah, ça peut te traverser l'esprit. Hein. T'es surtout dégoûté. La donne économique, socio-économique change complètement. Les gens deviennent frileux.
Bien sûr.
Ils te connaissent pas tant que ça. En France, ouais, on sait qui, machin, ouais, il a fait la Belgique, mais bon, ah, il a été là, ah ouais, mais bon, c'est les Fidji, ah ben là, oui, mais c'est le Qatar, ah ben là, oui, mais c'est la Hongrie, bon, voilà. Tu peux pas me dire ça à moi, je peux pas l'entendre, parce que ça veut pas dire qu'on n'a pas de caractère, ça veut pas dire qu'on n'a pas de qualité, et ça veut dire qu'on développe peut-être d'autres choses, mais qu'on a aussi la formation française, donc voilà, et puis se remettre dans la tête qui... Et voilà, ça repart.
Et là, à un moment,
chaque jour, j'aurai ma chance.
C'est quoi ma prochaine étape ? Je sais pas. Et là, tu pars en Algérie.
Ouais, je pars. Je vais aider Hakim Malek. On est clair depuis le départ. C'est quelqu'un que j'apprécie vraiment en dehors du foot pour des valeurs qu'on partage. Il avait rien aussi. Il a une équipe et on est en co-coaching. Mais bon, c'est lui qui a les clés du camion parce que c'est lui qui a le plan déjà. Mais on sépare bien les tâches sur du travail. Et puis, c'est surtout qu'il a... il est franco-algérien, il parle, etc.
C'était où ça ?
C'était au Paradou. Voilà.
Alger.
Voilà. Contexte, c'est particulier, etc. Encore, c'est autre chose.
Septembre 2020.
Ouais. Et c'était une super expérience.
Alger, sympa.
Ouais, Alger, super. Ah, vraiment. Tu vois, entre ce qu'on veut te montrer via les médias et comment est la vie réellement là-bas, c'est une autre planète. rencontrer des gens extraordinaires. Les Algérois ou les Algériens sont vraiment sont super. Découvrir un peu le pays qui est avec des beaux endroits. Maintenant, tu vois, entre-temps, je cherche toujours un petit peu sur la France. Et puis, je pense que je vais rebouger à l'étranger parce que...
Ta valise, elle est prête, voilà. En tout cas.
Ouais, la valise, elle est prête. Toujours. Bah, c'est un leitmotiv maintenant.
Quelles sont pour toi les clés pour réussir à l'étranger?
Bah, la clé, déjà, c'est toi. Ton état d'esprit, comment tu vas aborder les choses. Après, il y a quand même la faculté d'adaptation. Il y a ton contenu qui doit être adapté au contexte. Ça, c'est très important. Tu as quand même des trucs que tu ne pourras pas changer. Et puis avoir la soif de, et l'envie de comprendre les autres, parce qu'on a la chance de faire un métier comme ça.
Et tu dirais quoi à un entraîneur qui hésite avant de partir ?
Il faut qu'il le sente, avant tout. Hein. Faut qu'il le sente, faut que ça corresponde à son état d'esprit. Après, il y a des fois, il ne faut pas trop se poser la question. Hein. Parce que sinon, tu ne fais rien dans la vie. Hein.
Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite ?
C'est la fin du Covid. Et à titre plus personnel, de reprendre un bon challenge, voilà, de voyager encore, découvrir le football sur plusieurs continents, si possible.
Merci beaucoup, Christophe, pour ton temps et pour nous avoir fait voyager avec toi.
Bah, merci, merci.
C'est une expérience incroyable.
C'est moi qui te remercie là-dessus.
À très bientôt.
À bientôt.
Vous l'aurez compris, Christophe, c'était avant tout une belle rencontre. Pour la petite histoire, je l'ai contacté en début de semaine. Nous avons échangé sur le podcast, il a aimé le concept et le lendemain matin, il était là, souriant, avec toutes ces anecdotes incroyables à partager. Il est comme ça, Christophe. Ne sachant pas où il sera la semaine suivante, il vit dans le moment présent. Il est à fond dans tout ce qu'il entreprend. Et je termine en le citant, c'est le rêve qui fait avancer la réalité. Voilà, vous venez d'écouter le deuxième épisode de En dehors de ma surface. J'espère que vous avez aimé. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. À bientôt.